cher petit actionnaire, dans le culte auquel vous croyez et dont les dieux sont argent et grand patron, ces grands fauves qui sont divinisés par un système débile, vous êtes plus crédules que ceux dont les revenus du travail vous engraissent. Car vous êtes ces petites vestales sacrifiées sur l'autel d'un culte qui vous méprise tout autant que les victimes du monde du travail que votre imbécilité contribue à appauvrir et à précariser. Ben, elle est pas belle la vie ?
Daniel, bonjour, c'est Hervé. Écoute, je t'appelle là ce matin, j'entends sur France Inter la présidente des petits actionnaires. Bah écoute, qui pleure parce que EDF s'est cassé la gueule, quoi. Ouais, bah oui. Mais voilà, encore, quand je suis atterré par la réaction de ces petits actionnaires, qu'est-ce qu'ils croient, là? On est dans... Enfin, je veux dire, ils veulent jouer dans la cour de requins qu'on est dans, qui n'arrivent plus de partir, qui sont carrément enterrés dans le sol. Qu'est-ce qu'ils croient? Que ça se passe comme ça, que c'est gentil, que les gens vont prévenir quand une boîte se casse la gueule, ils vont ramasser le pognon et puis voilà, ils se barrent. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est la règle là? Non, il n'y a pas de règle, c'est la jungle, la jungle. Alors, Daniel, voilà quoi, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans un monde non régulé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la régulation quand ça va mal. Quand ça va mal, ben, tous ceux qui ont le plat du contre-sandier à tout, ils se barrent. Et qu'on trouve pas ça normal après, quand on est petit actionnaire, c'est là, bon, on achète pas d'action, c'est tout. Et puis basta. Et puis on laisse faire la jungle, hein. À vouloir jouer dans la cour des entre guillemets grands, parce que pour moi c'est des minables, hein. Voilà, quoi, ce qui arrive. Et ça, c'est un choix de société. Et aujourd'hui, il est pas tranché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la plus grosse part du gâteau pour très peu de gens, ou est-ce qu'on veut un gâteau pour tout le monde? C'est toujours la même chose. Alors Daniel, voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin, salut.
Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 14 ans, j'écoute la basse et j'y suis quand je peux en rentrant du collège. Je voulais vous remercier pour votre émission de mercredi avec Loïc Vacan. J'ai pas tout compris, mais ça a été très intéressant. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour et merci pour cette émission du métro. Le métro Melting Pot, le métro Aventure, le métro qui sent les miasmes humains et plus du tout le chaud réchauffé des huiles et du métal. Le métro que je ne prends pas depuis longtemps, seulement 4 ans, mais qui me passionne. Je regarde les gens et vous étiez chanceux de pouvoir monter à côté du conducteur, ce conducteur bouddhiste, ce conducteur philosophe. Un peu triste, ma foi. Je me demande où sont passés les beaux bancs, les merveilleux bancs en bois qui couraient le long des murs des stations. Maintenant, nous sommes punis. Plus le droit de nous asseoir dans la plupart des stations. Seuls quelques privilégiés ou quelques gens très fatigués s'accaparent les quelques sièges qu'on nous a laissés. Et quelquefois, il n'y a même pas de quoi s'asseoir, comme au métro à Besse, par exemple. C'est vrai qu'il fallait nous protéger de ces mendiants qui allaient s'installer. Ma foi, une fois de plus, beaucoup de plaisir à vous écouter. C'était délicieux. Au revoir.
Pas mal, hein, quand même, tous ces messages. C'est un bonheur quotidien, vos messages. Cette jeune femme de 14 ans qui écoute Loïc Vacan et qui dit « j'ai pas tout compris, mais c'était bien », etc. C'est vraiment un bonheur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les auditeurs qui écoutent les infos le matin sur Inter, et puis après, dans leur bagnole, ils appellent là-bas si j'y suis pour donner leur point de vue, leur coup de gueule et tout ça. C'est bien. On est contents, tiens, aujourd'hui. Et hier, on parlait de quelqu'un évoquait une émission que j'ai faite il y a bien longtemps qui s'appelait La Coulée Douce et qui était une émission érotique l'après-midi sur France Inter. L'été, il y a pas mal d'auditeurs qui se souviennent de ça. Tiens, je vais vous raconter une petite histoire. Très vite. Il y a quelques années, j'étais je sais plus où, quelque part en France, et il y a une jeune femme qui vient vers moi, magnifique, jeune fille, en bonne santé, très très bonne santé, qui me dit « Bonjour, je m'appelle Coulée Douce ». Et j'ai eu un instant d'hésitation et j'ai compris que, voilà, c'était ça. Elle avait été conçue, cette beauté avait été conçue pendant l'une de ses émissions. Évidemment, c'était pas son nom, c'était son surnom. C'est peut-être ce qui va se passer d'ici à 18h dans ce numéro un peu spécial de Là-bas si j'y suis que nous allons pouvoir entendre et partager après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de Là-bas si j'y suis. J'oublie de dire que le repère du bateau ivre. Le repère de la Bastille, j'y suis, le bateau ivre de l'île de Groix, c'est ce soir à 21h.
Connaissez-vous la jeune et naïve Zakatine? Regardez bien autour de vous, elle est peut-être la prof de vos enfants. Sa vocation, c'est d'enseigner, mais le recteur veille au grain. Elle fait ses 200 heures de vacation et hop, 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 on la remet dans un carton. Alors, contrainte et forcée, la petite Zakatine doit se marier. Ce soir, à la Maison du Peuple à Besançon, à 19h30 précise, sera célébrée la noce de Zakatine et Rémi. Rémi, le grand séducteur don Juan des Zakatines de toute la France. Venez nombreux goûter la pièce montée de Zakatine et Rémi à 19h30 à la Maison du Peuple de Besançon, 11 rue Battan, ce soir vendredi 16 juin, une tragicomédie en un seul acte, écrite, montée et jouée par le collectif des précaires de Franche-Comté que vous pouvez contacter au 08 72 15 34 30. Un repas, un buffet et à boire, vous pourrez boire, manger et faire la fête après pour célébrer cette noce. À ce soir.
Bonjour, c'est pour annoncer le prochain Café Repère parisien, samedi 17 juin au lieu dit. À 16h, 6 rue Sorbier, Paris 20e. La réunion se tiendra dans le café, dans la librairie éphémère, juste à côté du café. De toute façon, on vous indiquera sur place. Et il y a des personnes qui ont téléphoné au café pour se plaindre de la dernière réunion. Ils avaient tout à fait raison. Et si ces personnes écoutent, qu'ils sachent qu'on a pris des mesures et que cette fois, on fera tout pour que ça se passe bien. Voilà. Merci et à bientôt. Venez nombreux.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Le comité de vigilance et le réseau éducation sans frontières du Cher ont annoncé la semaine dernière un samedi de parrainage républicain demain, samedi 17 juin, à Vierzon. Ce parrainage est maintenu à la date de demain, mais aura lieu finalement à la mairie de Saint-Georges-sur-la-Prée, à 10 km de Vierzon, à 18h. Seront parrainées 4 familles, algériennes, géorgiennes, congolaises et tchétchènes. Merci Daniel de ta tribune. Au revoir.
Oui, bonjour les amis de la Bastille, j'y suis. Je suis devant cet admirable témoignage indiscret à voix basse de ce conducteur de RER hier après-midi, hein, rigoureux, consciencieux, un métis indien, antillais, là, apatride, réfugié dedans le ventre de la terre, un étranger, comme celui de Camus, mais là, dans le RER, le soleil ne brille pas du tout. Hein. Il disait des choses étranges, je suis pas fait pour vivre. J'ai longtemps souhaité mourir jeune d'une maladie grave, mais c'est pas arrivé. Je suis malheureusement en pleine santé et je sens que je vais vivre centenaire. Ça m'inquiète, je suis trop fragile. Le suicide, non. J'ai rencontré le bouddhisme, c'est mon salut et je souhaite à tous de croiser un jour cette voie. Retrouvez cet homme ou bien, je sais pas, suggérez-le à Zoé Varier, mais s'il accepte, mettez-le un jour en pleine lumière, pour le bien de nous tous et pour le sien aussi. Après la bâche, j'y suis, ça c'était beaucoup plus dur, hein, parce que ça continue, hein, le perpétuel charivari radiophonique. Et là, il y a un certain Jacques Marseille qui faisait l'éloge d'une prochaine guerre civile en France. Oh, c'est pas forcément violent une guerre civile, hein. Pour l'instant, il fusillait verbalement, droite et gauche, sous les coups de bonnard de Frédéric Bonneau. Il faisait des critiques racoleuses faciles, il a fait l'éloge du patriotisme comme solution à tous nos maux, il a terminé en traitant de crétins ceux qui disent que Napoléon était un dictateur. Quelle misère les hommes, et quel crétin ce Jacques Marseille. Enfin, parce qu'il y a péril dans la demeure, il faut inviter un jour Gérard Filoche, saint inspecteur du travail, qui a écrit lettre ouverte à celle ou celui qui défendra les couleurs de la gauche en 2007. Il appelle à un candidat unique de la gauche au premier tour, et c'est notre seul salut. Parlez-en souvent, souvent, s'il vous plaît, et puis débattez de ça, sinon l'espérance va mourir. C'était Michel, travailleur saisonnier, aujourd'hui à Sainte-Foy-la-Grande. Merci.
Dans le fauteuil bleu, large comme un lit, aux bras enlaçants comme une caresse, elle est toute nue et toute en ivresse devant la candeur du miroir poli. Un cygne coquet qui semble un grain d'orge tressaille et tressaute en brusques élans entre ses deux seins gonflés et brûlants. Ses cheveux défaits roulent sur sa gorge. Le cou renversé, le flanc qui se tord, les jarrets tendus, ses cuisses ouvertes, tout son corps se cambre et ses doigts alertes fouillent l'ombre rose aux frises de l'or. Vite, vite, Et toujours plus vite, sa main s'accélère et son bras frémit. Ses yeux tournoyants sont clos à demi et son ventre blanc s'élève et palpite. Vite, encore plus vite, un rauque soupir, un sourire étrange. Elle a rendu l'âme et sa main s'arrête et sa chair se pâme. Son souffle pressé paraît s'assoupir. Plus rien. Le silence. Elle est toute pâle. Soudain, le désir la reprend. La tient. Sa hanche se crispe et sa main revient. Vite, 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 vite. Elle râle. Le soir tombe et tout d'ombre se remplit. On ne perçoit plus que des profils vagues. À peine, peut-être, un reflet de bague, éperdument, tremble au miroir poli. Louis Marcelo. Dans cette grotte obscure, incessamment, s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Dans cette grotte obscure, incessamment s'allume un feu plus violent que celui de Vulcain.
Et c'est là qu'en secret, sur une main en plume, l'écu, en bondissant, frappe le genre humain.
Et c'est là qu'en secret, sur une molle en plume, l'écu, en bondissant, frappe le genre humain.
Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
Flight number 2, arriving from New York.
S'afflige. Tu balances la souple tige d'un calice plein de péchés. Maintenant que te voilà prise aux saveurs du fruit que tu mords, tu te caresses sans remords, toute pâle de gourmandise. La volupté que tu poursuis t'abuse de son artifice, pendant qu'au gré d'un vin délice vont tes soupirs évanouis. Extrait de l'appartement des jeunes filles de Roger Allard, 1914.
Phallus en l'air, coudrier nain. Les enfants du Péloponnèse ont de jolis palmiers en zinc pour enculer les Polonaises. Guillaume Apollinaire ou Alfred Jarry.
Lorsqu'une femme maligne de son corps forme un cerceau, fouteur, glissez votre pine dans la bonde du conneau. Qu'un autre la foute en bouche et la garce au même instant reçoit une double douche. Rien n'est plus divertissant. Extrait 2. L'art de foutre en 40 manières, 1789.
Retirez-vous, censeurs atrabilières, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prunudes, guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont point faits pour vous. Ainsi s'adressait Mirabeau au peuple puritain, alors qu'il était en compagnie de la belle Sophie Monnier. Et ça peut nous servir de, de Sésame pour cette heure que nous allons passer, vous avez compris, autour d'un livre absolument formidable de Jean-Paul Goujon, un choix de poésie. De poésie seulement, hein, c'est pas toute la littérature, ce serait énorme, mais de la poésie érotique française. Alors, c'est un vaste sujet, c'est un merveilleux sujet, c'est un sujet mystérieux, et Robert Desnos, qui en 1923 publiait un ouvrage de réflexion sur l'érotisme, disait aussi bien quel homme préoccupé de l'infini, dans le temps et l'espace, n'a pas construit cette érotique dans le secret de son âme, quel homme soucieux de poésie, inquiet des mystères contingents ou éloignés, n'aime pas à se retirer dans cette retraite spirituelle où l'amour est à la fois pur et licencieux dans l'absolu. Voilà, il n'y aurait plus qu'à tirer le rideau, ou plutôt le verrou. Oui. Le verrou, vous pensez à Fragonard, vous pensez au hasard heureux de l'escarpolette. Eh bien, vous pensez juste, et vous pensez, là, on peut peut-être souligner un trait de notre culture, la française, en matière d'érotisme. Nous avons un art érotique particulier, non pas que nous soyons en cela les premiers, mais nous avons quelque chose de particulier qui nous vient de probablement des Lumières du XVIIIe siècle et d'un Fragonard, par exemple, qui pourrait nous avoir peint tout le décor de cette émission. C'est jusqu'à 18h. C'est là-bas si j'y suis, ça n'est pas la coulée douce, c'est l'anthologie de la poésie érotique française.
Dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, pille-moi, dépense-moi, gaspille-moi. Saccage-moi, dilapide-moi, lapide-moi, érape-moi, liquide-moi, émiette-moi. Ravage-moi, et presse-moi, et puis broie-moi, et puis noie-moi, et puis bois-moi, et caille-moi. Colonise-moi, piétine-moi, déglutis-moi, extermine-moi, ravage-moi, délabre-moi. Ratisse-moi, corrode-moi, démantèle-moi, désintègre-moi, massacre-moi, écrabouille-moi.
De sa bouche, il cherchait une source tarie, dont la mousse arrêtait le cours interrompu, et sa lèvre mouillait une lèvre fleurie pour étancher sa soif en son cœur non repu. D'une tige éperdue, aspirant la corolle, farouche, elle absorbait chaque tressaillement, consacrant son désir à quelque course folle dont le but est l'étrange ivresse d'un moment. Le silence imprimait de plaintives minutes. Leur corps ne comptait plus les successives chutes vers ce gouffre où notre innocence s'immola. Soudain, l'ombre exila la lumière éblouie. Et, dans un même élan, la fleur épanouie répandit sa rosée et la source coula. Jacques Brindejon Offenbach, 1927.
Oh. En voyant sa dame au matin près du feu où elle se lasse, où est le cœur que Jas se lasse de regarder son beau tétin, alors se dit, main bon tatin, quand on s'entretient face à face, en voyant sa dame au matin, on a un beau corset de satin, quand on la tient et on l'embrasse, c'est ce que tout ennui efface, maugré faux d'Angier le matin, en voyant sa dame au matin. Voilà un petit poème anonyme de 1480. Et on a l'impression de voir un instantané d'aujourd'hui, de nos vies intimes, évidemment, il y a des siècles. Voilà, c'était les mêmes regards, c'était les mêmes interrogations, c'était les mêmes attirances, c'était les mêmes mystères, c'était le même infracassable noyau de nuit dont parlait André Breton, qui hante notre commune humanité depuis si longtemps. Et dans ce livre, et ben voilà, ça se donne encore à nouveau à voir et à partager et à vibrer, et avec ce plaisir évidemment de l'interdit. Ce plaisir de l'interdit, ou ce plaisir de subvertir l'interdit, n'est plus ce qu'il était. On a connu des moments où c'était vraiment, il fallait lutter contre une censure. Aujourd'hui, on est plus dans un plaisir, dans une délectation. Ce combat est tant accompli, mais évidemment, rien n'est jamais acquis. On nous l'a dit et on nous l'a redit. Donc, rencontre avec Jean-Paul Goujon, l'auteur de cette anthologie de la poésie érotique française.
Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ? Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ?
Retirez-vous, censeurs atrabiliaires, fuyez des veaux hypocrites ou fous, prudes guenons et vous, vieilles mégères, nos doux transports ne sont pas faits pour vous. Voilà, c'est attribué au fougueux Mirabeau, dites-vous, Jean-Paul Goujon, et c'est un avertissement aux auditeurs et censeurs atrabiliaires qui pourraient accidentellement être à l'écoute. De quoi nous allons parler ? Eh bien, nous allons parler de votre bouquin, une anthologie de la poésie érotique française. Est-ce que, Jean-Paul, il y a vraiment beaucoup d'auditeurs qui vont être scandalisés aujourd'hui par ce que nous allons entendre ?
Je ne sais pas, peut-être un certain nombre d'entre eux demandent-ils à être scandalisés aussi.
Oui, oui.
Mais
je veux dire, par là, est-ce qu'un bouquin comme celui-là, c'est énorme, il y a quoi, il y a 1000 poèmes ?
Il y a, oui, 900 ou 1000 poèmes, en effet.
Poèmes, chansons, etc. Est-ce que ça aurait pu être publié il y a 30 ou 40 ans dans notre bel hexagone, comme ça, normalement, comme un livre parmi d'autres, ou presque ?
Non, ça n'aurait pas été un livre parmi d'autres. Je pense que certains textes auraient posé problème.
Oui.
Parce qu'on admet la poésie galante, mais disons la poésie érotique...
Vous savez à quoi vous allez vous exposer, c'est qu'on vous demande une définition de l'érotisme.
Ah ben c'est très simple, c'est un grand mystère.
Voilà, c'est la réponse.
Oui. Oui. C'est quelque chose qui est justement très presque incongru dans le monde où on vit, parce que le mystère a été balayé de toutes les avenues. On essaye de tout rationaliser, puis on se trouve en présence de quelque chose qui fait appel à d'autres choses que la raison, la logique, ou ne parlons pas du profit, du capital et de tout ça.
Il y a 30 ou 40 ans, ça a été une bataille, on l'oublie aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs, mais une bataille héroïque que celle d'un certain nombre d'intellectuels, d'éditeurs qui se sont battus pour qu'un certain nombre de textes et d'auteurs soient portés à la connaissance de tous. Hein. Je pense à Pauvert.
À Pauvert avec l'affaire Sade, qui remonte, je crois, déjà aux années 50. Et puis il y a eu Régine Deforge qui, on l'oublie, parce qu'elle a beaucoup de succès en tant que romancière, etc., mais a été en butte à une véritable déluge de condamnations.
L'Osfeld,
bon, qui est mort, Losfeld. Mais qui a endetté comme une mule, comme il disait. C'était un peu des pionniers. Bon, Jean-Jacques Pauvert est toujours parmi nous et il vient de sortir ses mémoires, comme vous le savez,
un
tome. Effectivement, alors 30 ans, 40 ans, c'est pas très loin. Vous avez vu il y a quelques mois, je crois, l'ancien ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin est mort. Il s'était illustré notamment dans des dans des interdictions.
Alors, vous nous dites dans la préface ce que c'est cette poésie. Hein, c'est pas toute la littérature érotique, parce qu'il faudrait, il faudrait une bibliothèque entière. Ce serait un enfer, d'ailleurs. On appelle ça un enfer. Ça existe déjà.
Ça existe à la Bibliothèque nationale.
Qu'est-ce que ça raconte sur nous? Qu'est-ce que la poésie érotique dit d'une société? Qu'est-ce qu'elle veut cacher?
Ce qu'elle veut cacher est le privé, la sphère du privé, de l'intime, bon, qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais on n'a pas l'impression que ça soit dans toutes les directions. Et ça révèle, ou ça exprime plutôt une chose, mais qui en fait est assez naturelle, mais qui a été écartée pendant pas mal de siècles de la littérature. C'est d'ailleurs très curieux à voir historiquement, parce que la poésie érotique était admise comme un genre, on peut dire jusqu'à l'époque de Louis XIV. Alors là, il y a eu une censure très forte, parce qu'elle était liée à la libre pensée aussi, à toute une philosophie de l'existence qui, disons, refusait la religion, le péché originel, l'adultère, etc.
Est-ce que sans ces interdits, cette poésie existerait?
Non, parce que, comme disait je ne sais plus qui, ce qui est admirable dans la censure, c'est qu'elle fait croire qu'il y a des livres dangereux.
Ouais, c'est ça.
N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une production de poésie érotique, mais je ne sais pas si... est-ce qu'elle naît de liberté? Je ne dis pas qu'il faille une certaine contrainte, mais enfin, il y a tout un jeu.
Si c'est pas sous le manteau, ça perd sa force.
Bah oui, vous comprenez, un livre que vous trouvez à la bibliothèque de la gare avant de prendre le TGV n'aura pas quand même le même impact qu'un livre sous le manteau.
Donc il faudrait que votre livre soit interdit pour bien faire.
Ah, ça serait son destin, oui.
Oui, ce serait pas mal.
Ça serait pas mal.
Lime-moi mon cadenas, serrurier de cythère. Lime-moi mon cadenas. Ne crains pas d'en trop faire, ne me ménage pas. Lime-moi. On me fourrait au couvent, par ordre de ma mère. On me fourrait au couvent. Mais mon coup pour cythère en décide autrement. On me fout. On me fourrait au couvent. Vite, au combat, chevalier. Hortense te défie. Vite, au combat, chevalier. Mais le chevalier plie. Hortense a beau crier. Vite au con. Vite au combat, chevalier.
Mon assauté, mon doux relot, mon doux ciné, mon amoureux, mon mignon, mon gentil falot, ne soyez jamais souffreteux. Allons nous en jouer, nous deux. Ne vivez plus sur le commun. Frappez fort, soyez courageux. Je vous rendrai deux coups pour un. N'épargnez point votre maillot et ne soyez jamais honteux. Comme la taupe et le mulot fouillant la terre d'entour d'eux, fouillez et ne soyez piteux. Comme une anguille de melun, glissez-vous au fin fond du creux. Je vous rendrai deux coups pour un. Or, fouillez bien au fond du pot, car le brouet est savoureux. Vous y savez votre tripot. Pour y bien jouer en tout lieu, or, laissez tous vos autres jeux sans vous trop tenir à aucun. Forgez, frappez, soyez joyeux. Je vous rendrai deux coups pour un. Prince, prince, j'ai le con précieux, doux et sucre, mais il est brun. Frappez un coup aventureux, je vous rendrai deux coups pour un. Anonyme, 1532.
Poésie érotique, pour moi, il y a deux termes, poésie et érotique. J'ai essayé quand même aussi de ne pas trop oublier la poésie, de prendre des pièces qui ne soient pas seulement érotiques, parce que, bon, ça serait uniquement des choses hardes, disons. Et dans la poésie elle-même, j'ai essayé de laisser une certaine place à un certain humour, parce que je trouve très intéressant l'alliance de l'humour, de l'ironie avec l'érotisme. Ça donne une charge encore plus forte, un piquant encore plus plus fort à l'érotisme, je crois.
Vous avez découpé le bouquin en chapitres, sociologie, solitude, politique, sentiment de famille, hétérodoxe, bizarrerie et raffinement, une vague de rêve. Qu'est-ce que c'est que cette construction ?
Mais cette construction avait pour but...
Je rigole parce que je tombe sur ce petit poème
de Gautier.
De Théophile Gautier, qui nous dit, qui nous parle du bonheur parfait, que les chiens sont heureux dans leur humeur badine, ils se sucent lapine, ils s'enculent entre eux, que les chiens sont heureux.
Oui,
c'est une belle réflexion aussi.
Belle réflexion de Gautier.
Quelqu'un qui aime les bêtes.
Oui. Qui aime les bêtes en plus. Oui, alors, ce que j'ai voulu, c'est me démarquer un peu des anthologies habituelles qu'a eu avant, et essayer d'éviter un peu la séquence chronologique, c'est-à-dire l'érotisme au Moyen-Âge, l'érotisme sous la Renaissance, l'érotisme, etc. C'est un peu fatigant, c'est un peu monotone, et il me semble que cette division par petits chapitres thématiques, il y a l'esprit des dames, il y a un chapitre sur les cocus, une autre sur la vérole, sur le mariage, etc., est plus propre à rendre sensible la variété de la poésie érotique, qui n'est pas uniquement, comme on croit, la simple répétition de mots ou de situations obscènes. Il y a des choses assez énormes, assez surréalistes, presque, pourrait-on dire.
Et beaucoup de choses très touchantes. Hein.
Oui, également.
C'est toujours touchant de voir un poème du 15e siècle, du 16e siècle, qu'on aurait pu écrire hier, parce que la chose qu'on faisait au 16e siècle ou aujourd'hui, c'est la même, poussée par les mêmes élans.
On suppose, oui.
Oui, alors, il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît, il y a quand même pas mal d'écrivains, je tombe sur Raymond Radiguet, il y a pas mal d'Apollinaire, il y a du Baudelaire, là je vois Voltaire, je vois Verlaine, Théophile Gautier, on en a parlé, Glatigny, que je connais peu.
Ah, Saint-Parnassien, intéressant.
Ah oui ?
Ah oui, oui. Donc très très amusant, très délirant, dans le pastiche.
Joachim du Bellay, etc., tous ces auteurs qu'on apprend à l'école ou qu'on lit, la plupart des...
Oui, on ne les trouve pas dans les manuels scolaires, ces pièces-là, en général.
Mais finalement, on pourrait aller plus vite en demandant qui n'a pas, parmi ces célébrités littéraires, écrit d'érotique.
Oui. Alors, la grande interrogation, c'est, je le dis un peu dans ma préface, c'est Victor Hugo. Parce qu'il y a une ou deux petites pièces, mais qui n'ont pas grand intérêt, qui sont un peu des badineries, alors que nous savons que c'était un homme qui avait des appétits sexuels extrêmement forts jusque dans sa verte vieillesse. Mais au fond, c'est pareil, Christian Chaste. Ce qui est assez surprenant. Mais vous avez, par exemple, puisque vous parlez d'auteurs inattendus, si je ne me trompe pas, un poème érotique de jeunesse de Jules Verne.
Ah oui.
Lamentation d'un poil du cul de femme.
Oui.
C'est assez étonnant quand on pense que Jules Verne a écrit des ouvrages que lisaient tous les enfants.
Il est dur lorsque sur la terre, dans le bonheur, on a vécu de mourir triste et solitaire sur les ruines d'un vieux cul. Jadis, dans une forêt vierge, je fus planté sur le versant qu'un pur filet d'urine asperge, et parfois un filet de sang. Qui pourrait deviner que, oui, effectivement, c'est de Jules Verne.
C'est plutôt un joyeux carabin que Jules Verne.
Ouais.
C'est ça le plaisir, c'est de trouver des choses inattendues, d'auteurs, peut-être pas austères, mais enfin qui sont pas réputés pour leur érotisme.
C'est-à-dire que depuis toujours, évidemment, la poésie érotique met en cause l'ordre des choses.
Oui.
Et du coup, le bon goût aussi est remis en cause.
Absolument.
Hein, c'est ça ?
Oui, mais c'est très bien.
Hein. Oui. Non, mais on a des chansons de corps de garde.
Ah oui, il y a la scatologie, il y a un hymne d'un vidangeur qui dit aimer les étrons, etc. Oui, mais bon, pourquoi pas ? Et vous avez vu, il y a un chapitre sur ce que j'appelle les homosexualités aussi. Il faut bien dire que les anthologies, souvent, étaient homophobes.
Et misogyne ?
Oui, misogyne. Alors, il y a un chapitre sur la misogynie également, parce qu'il y a une poésie érotique qui est misogyne. Il faut pas se leurrer à ce sujet.
J'aime, aux pâles beautés, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
J'aime, aux pâles beautés, tes sourcils surbaissés, d'où semble couler des ténèbres.
Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique.
avec ta crinière élastique, tes yeux languissamment me disent
« Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité. »
Amant de la muse plastique.
Et tous les goûts que tu professes.
Et tous les goûts que tu professes.
Tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Tu pourras constater notre véracité.
Tu trouveras au bout de deux seins bien lourds, deux larges médailles de bronze.
De larges médailles de bronze.
Et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bronze.
Doux comme du velours.
Une riche toison.
Une riche toison.
Qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure souple et frisée.
Souple et frisée.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure.
Et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoile, nuit obscure.
Charles Baudelaire. Un jeune amant me rencontra, Seulette, dans la prairie. Et tout d'abord, il m'embrassa, d'une façon jolie, me disant « Belle, c'est par là que le plaisir commence. » Et toujours va qui danse. Enflammée par ce doux baiser, soudain sous ma gorgerette, je sentis qu'il osait glisser une main indiscrète. Longtemps, elle s'y promena malgré ma résistance. Tandis qu'une main mesurait de mon sein l'architecture, l'autre, doucement, s'égarait plus bas que la ceinture. J'avais beau de cette main-là réprimer la licence. Mais connaissant que son dessein me rendait tout inquiète, le berger retira sa main. La paix fut bientôt faite. Un doigt seulement y resta. Oh, quel doigt quand j'y pense. Anonyme.
Un jour sur le boulevard, je l'ai traversé dans un sac chevaux. Avec un sourire, tu me dis de la place. Ça vous plairait-il que je vous en menace? Bref, je suis montée sans savoir pourquoi. Tu m'as emmenée jusqu'au fond du bois. Tu m'as pris la main sans que je prenne la bouche. Tu m'as pris les cheveux, tu m'as pris la bouche. Dans ces conditions, dame, c'était fatal. Il y avait bien des chances pour que ça tourne mal. Tu possédé par surprise, et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certes, j'aurais dû dire non, 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 mais voilà, j'ai dit oui, 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 oui. Seulement j'ai peur à présent que tu méprises. Et cependant tu le sais, je n'ai pas fait exprès ce qui est fait, fait, n'en parlons jamais. Tu m'as possédé par surprise.
Vous marchez d'un tel pas, madame, je suis prêt à fondre.
Monsieur, je ne vous connais pas, je n'ai rien à vous répondre.
Que de poils sur votre manchon, oh. Peut-on voir ceux de votre ventre?
Monsieur, vous êtes un cochon, laissez-moi tranquille, je rentre.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous encule?
Mais c'était bien, oh là là.
Attends le micro. Attends, le micro, hop, c'est bon.
Attends.
Vous masturbe-t-on par devant, madame, quand on vous encule?
Dieu, que cet homme est énervant. Il va me rendre ridicule.
Madame, j'ai la pine en l'air, j'aurais besoin de votre bouche.
Mais vous êtes toqué, mon cher. À quelle heure est-ce qu'on vous couche?
Allons, nous tirerons 6 coups, montez chez moi, je vous enfile.
Ah, oh, je veux bien, mais dépêchez-vous. Dans une heure, je dîne en ville.
Thank you.
petit poème de Pierre-Louis parmi... Pierre-Louis, oui, l'auteur du Roi Pozzol, par exemple, n'a pas écrit que le Roi Pozzol, il a écrit énormément, mais une production extraordinaire de ces petits poèmes tout à fait inconvenants, absolument scandaleux sur une antenne nationale à 17h45. Je partage tout à fait votre point de vue avec toute la tartufferie, l'hypocrisie qui sied et qui a longtemps augmenté probablement le plaisir à la Sénatole France qui disait qu'on ne remerciera jamais assez la religion d'avoir fait de l'amour un péché. Alors voilà, il y a un plaisir évidemment dans la subversion, dans le paravent, dans le masque, dans la pénombre, dans le suggéré, dans le suscité, dans tout ce que nous, et finalement nous ne savons pas, nous n'en savons absolument rien. Ce qu'on sait, c'est que ça ramène toujours un désordre, le désordre amoureux, et qui n'est jamais nouveau, qui est toujours renouvelé sans cesse, et qui est là, qui nous préoccupe. Si à la fin d'une journée on avait une machine pour compter combien de fois nous avons pensé à ça, combien de temps nous avons consacré à penser à ça, on s'apercevrait qu'on n'a pas pensé à autre chose dans une journée. On est avec Jean-Paul Goujon autour de son livre qui sort, Anthologie de la poésie érotique chez Fayard. Comment on a écrit ça? Comment ces auteurs ont-ils écrit ça? Vous allez me dire, il y a des tas d'auteurs différents, des conditions...
Non, ce sont des poètes. Je pense qu'ils ont élaboré leur texte, et même ceux qui semblent des chansons de carabin, des chansons populaires, on voit le jeu des rimes, on voit... Bon, c'est pas une grandissime poésie, mais c'est très rare, je pense, qu'ils aient réussi à improviser quelque chose. Certains étaient doués, des gens bon, comme Apollinaire, sans doute, Verlaine, bon, également, mais il y a un travail. Et c'est assez paradoxal de penser que ce qui n'est qu'érotisme, que joie, chose plutôt légère, exige un travail.
Votre favori dans tout ça, je suis sûr que c'est un poème de Pierre-Louis.
Ah oui, il y en a un qui est très drôle, 376, ben je peux le lire si vous voulez.
Voilà, c'est ce que c'était un peu...
Au bal, madame, qu'il fait chaud ce soir, le bal est morne, ridicule. Venez dans ce cabinet noir et souffrez que je vous encule. Vous voulez bien? C'est très gentil. Vos fesses me rendaient malade. La chair forte, le trou petit. Parfait. Vous aimez l'enculade? Oui, pas avec votre mari. Je le comprends. Mais en soirée, c'est votre plaisir favori. Baissez-vous, un peu plus cambré.
Ce qui est extraordinaire chez Pierre-Louis, c'est la production. Il a une production énorme.
Ah, immense, immense, hein. Parce qu'il a aussi une production, je ne veux pas dire chasse, mais enfin officielle. Il a écrit bon, des romans, des contes, etc. Mais la production de surtout de poèmes, enfin de littérature érotique est énorme. On ne sait pas combien il a pu écrire de poèmes, parce que beaucoup restent encore inédits, mais plusieurs milliers à coup sûr. Et avec une verve jamais fatiguée.
Est-ce que ça hypothèque sa renommée aujourd'hui d'avoir commis des choses pareilles?
Au contraire, ça l'a rendu plus connu, parce que il y a eu de nombreuses éditions et rééditions de ses œuvres. Rééditions, effectivement, qui, il y a 30 ans, n'auraient pas été tellement possibles, mais qui maintenant se multiplient depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans, et qui font que, bon, il a cette réputation. Il était déjà considéré comme un libertin, mais maintenant, on considère comme un maître de la littérature érotique.
Dada. Et je leur montre entre mes fesses un brin de réséda. Espérez que bientôt toutes les aubépines fleuriront sans succès la haie et les buissons, et que vos mains
tiendront au lieu de fleurs l'épine fraîche et rose de tous les verts garçons. Lettre de Marie de Régnier à son amant Pierre-Louis.
Une étoile caresse le sein d'une négresse. Un escargot lèche mille nichons. D'où jaillit le pipi bleu du pape roi. Ainsi soit-il. Joan Miró. Je sais relever mon jupon et dire à papa, sors ta pine pour que je me la plante au cou. Je bois du foudre à la choupine, je me fais gousser par ma sœur et souvent je me branle encore. Mais peut-être que le bonheur est dans les choses que j'ignore. Pierre-Louis.
Est-ce que, Jean-Paul, est-ce qu'on trouve une production analogue dans toutes les cultures ?
Écoutez, il y a une littérature qui se rapproche un peu de la littérature française à cet égard érotique, c'est l'italienne, parce qu'il y a un peu une tradition ininterrompue depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Renaissance, jusqu'au XXe siècle, et l'un des plus grands poètes érotiques de tous les temps, c'est le Vénitien Giorgio Baffo du XVIIIe siècle, qui est absolu. Il ressemble à Louis un peu, il est hilarant. Rien que les titres de ses poèmes sont à mourir de rire. On a publié dernièrement, je crois que c'est chez Zulma, une traduction. Il y a par exemple différence entre Descartes et l'auteur. Alors c'est en vers, hein, je paraphrase. Descartes dit je pense donc je suis, moi je dis je fous donc je suis. Tout est comme ça.
Jean-Paul Goujon, vous vivez en Espagne, vous enseignez à Séville. Oui. On trouve une poésie érotique espagnole.
On la trouve ancienne, mais qui a été très cachée parce que extrêmement réprimée par la société et surtout par l'Église qui est restée toute puissante jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors il y a surtout au Moyen Âge et au XVIe siècle, il y a quelques poèmes qui ont été publiés bien après effectivement. Mais ce n'est pas comme en France parce qu'en France il y a une tradition puisqu'en Italie encore ininterrompue puisque vous avez vu dans mon livre il y a certains poèmes qui datent de 1450-1480 le 15e siècle, la fin du Moyen Âge, jusqu'à nos jours.
Jusqu'à Jean Genet, vous arrêtez à Jean
oui,
Genet.
Oui, parce que j'ai dit que oui, l'admirable. Oui.
Un assassin si beau qu'il ne fait pas lire le jour.
Ah oui, ça c'est
magnifique.
Ça, c'est son chef-d'œuvre poétique.
Ah, quitter au matin ton corps d'ambre et de lait, plus flexible qu'un fauve heureux qui se couche, emportant la saveur de l'amour dans ma bouche.
Pour foutre quelque peu, vous en serez plus belle. Les prés bien arrosés rapportent plus de fleurs, les champs bien moissonnés rendent plus de fruits mûrs. Quand la blonde Cérès met son blé en javel, foutez, belle Chloris. Ainsi la grande Cybèle, généreuse, engendra du monde les seigneurs. Sans cela, que vaut l'or ? Que valent les honneurs ? Que vaut cette vertu que l'on rend immortelle ? Le doux branlé du ciel, produit par les saisons, les verdures, les grains, les raisins, les glaçons. Le plaisir de l'amour est souverain remède. Jouissez donc, Chloris, de vos belles amours. Celle qui n'en jouit point est ingrate à ses jours. Laissez dire ces sots qui n'ont point le vie raide. Anonyme, 1620.
Les petites filles qui relèvent leurs robes et se branlent dans les buissons ou dans les musées derrière les Apollos en plâtre, pendant que leur mère compare la queue de la statue à celle de son mari et soupire « Ah, si mon mari lui ressemblait !» Louis Aragon ou Benjamin Perret. À l'aurore, au petit matin, livré aux songes et aux mensonges, ouverte aux baisers clandestins, sa moniche couleur d'orange évoquait un cratère éteint. Guillaume Apollinaire.
Merci à nos deux formidables comédiennes, Sylvie Gravagna et Florence Bott. Merci à Jean-Paul Goujon. Je rappelle encore une fois son bouquin qui sort chez Fayard, Anthologie de la poésie érotique. Anthologie de la poésie érotique, et voilà tout.
Deux dames près d'une rivière parlaient d'amour et de son jeu. Il est beau, se dit la première, mais le plaisir dure trop peu. Et puis l'action ordinaire est si sale après la façon. Ma foi, répondit la dernière, court et vilain, mais il est bon. François de Ménard, 1620.
Or, en dansant, elle s'approche, elle gambille, elle ricoche, elle vole comme un fétu. Dans ses étranges pirouettes, elle branle des castagnettes faites de couilles d'un pendu.
Comme un écolier se jouait avec une belle pucelle, pour lui plaire, bien fort louait sa grâce et beauté naturelle, les tétons mignards de la belle et son petit cas qui tend vous. Oh monsieur, ah donc, se dit-elle, Dieu y mette ce qu'il y faut. Clément Marot, vers 1540.
Dieu, que le jeu du flageolet me plaît et me réveille. Il y a chez nous un valet qui en joue à merveille et que j'ai pris pour mon amant à cause de son instrument. Quand je le veux faire jouer, il faut que je le baise. Mais après, il faut avouer qu'il me fait pas mes thèses, car de temps ce même moment, il ajuste son instrument. Alors, je commence à danser pour lui donner envie de ne pas s'y tout lasser, car c'est toute ma vie et mon plus grand contentement de voir ce gentil instrument. Je n'ai jamais vu de garçon avoir si longue haleine, ni en jouer de la façon avec moins de peine. C'est ce qui fait que, hautement, j'admire ce bel instrument.
Voilà, merci à toutes deux, Sylvie Gravagna et Florence Bott. Le livre de Jean-Paul Goujon, on l'a dit, c'était Anthologie de la poésie érotique aux éditions Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. En principe, cette émission est podcastée. Je ne sais pas si ça marche, mais en tous les cas, en principe, ça marche. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chaoyan Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.